Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un roman qui se déroule en 1954 aux États-Unis, dans l'Utah. C'est un roman où il est question d'un tueur en série, de militaires, de soucoupes volantes, d'une bombe atomique, d'extrémistes religieux, de femmes massacrées et de parfums. C'est un roman dont le personnage principal est un shérif solitaire, obsédé par la mort de ses parents assassinés, un homme sur le point de tomber amoureux. Voici donc en quelques mots la situation de ce roman intitulé « Le Cherokee » aux éditions Joël Losfeld et que vous signez Richard Morgiev. Bonjour.
Bonjour, merci de définir le cadre aussi bien de mon livre.
On essaye.
C'est pas si facile que ça.
Alors c'est une fiction qui dynamite tous les genres, policiers, fantastiques, romantiques, nature writing, comme disent les Américains, oui. politique, et qui glisse d'une frontière à l'autre. Mais pour commencer, car il faut bien ouvrir une première porte, il se trouve que votre personnage principal s'appelle Nick Corey, un nom familier peut-être pour les amateurs et les heureux lecteurs de Jim Thompson, qui dans son roman 1280 âmes avait donné le même patronyme à son shérif, un livre qui en 1966 a paru en français dans la célèbre collection Série Noire sous le numéro 1000. Ce n'est sans doute pas un hasard, Richard Morgiev, que vous ayez choisi ce nom. Pourquoi ?
Non, d'abord parce que je recommande déjà aux auditeurs de lire Jim Thompson s'ils s'intéressent à la littérature noire, parce que c'est un auteur vraiment super intéressant, qui est en marge des courants littéraires et qui est un individu assez exceptionnel, assez beau. J'adore les photos de cet homme. Et je conseille aux auditeurs de lire son autobiographie qui est absolument extraordinaire et qui s'appelle Vaurien.
Vaurien,
voilà. C'est une vie géniale, quoi. Enfin, c'est voilà.
Alors, donc, vous avez déjà une admiration pour l'écrivain.
J'ai une admiration pour l'écrivain. Et puis, moi, j'ai commencé je suis un vieux bonhomme. J'ai commencé à écrire des romans policiers. Et j'ai arrêté parce que je me suis aperçu que d'abord ils étaient mauvais, donc ça, il fallait pas continuer. D'une part, et que deuxièmement, ça m'empêchait d'aller plus loin. Moi, en fait, je veux aller plus loin. Essayer d'aller plus loin que les limites que j'ai, qui sont des limites humaines et peut-être encore plus bornées que chez un autre, mais ce sentiment de que on est ailleurs et puis de dire la vérité, de dire la bonté ou la saloperie, de n'avoir aucune limite, aucun interdit. Et donc j'ai compris que je ne pouvais pas dans le roman policier que je sacralisais, hein, parce que c'était pour moi une littérature, je pense, extrêmement importante. Référence, je suppose, à mon père, qui est mort quand j'étais très jeune, et qui ne lisait plus à la fin de sa vie que des romans policiers. Et j'ai pensé que j'ai voulu lui en écrire pour re-correspondre avec lui. Donc, je l'ai fait. Papa était mort, j'ai écrit 5 livres qu'il n'a pas lus, mais pour lui, et puis après j'ai écrit d'autres livres pour, en fait, apprendre à aller plus loin.
Élargir les horizons.
Oui, ne pas avoir de limites.
Donc ici, par exemple, le Cherokee, pour vous, n'est pas un roman noir, c'est vraiment un livre qui s'affranchit des genres, mais qui joue quand même avec les codes littéraires.
Tout à fait.
Avec cette première référence, donc, à Jim Thompson. Vous vous inscrivez quand même
bien
dans
sûr.
Un paysage littéraire.
Simplement, je suis assez innocent, voyez-vous. Donc, j'ai choisi ce cadre, 54, les USA et tout, parce que ça m'excitait. C'est un moment vraiment très intéressant de l'histoire récente. Les États-Unis sont un pays fascinant pour un écrivain. Et donc, je me suis dit, naïvement, je vais écrire un thriller. Mais je suis moi. Et donc, ma capacité émotionnelle est très profonde. Je ne veux pas me distinguer. Je ne veux pas dire que je suis plus sentimental qu'un autre. Mais j'ai vraiment besoin d'amour, de joie, de complexité, ce qui fait que dans ce livre, peu à peu, a un peu muté. Au point que, quand j'ai fini, je pleurais à chaudes larmes, et que si je relis ce livre, je pleure. Je pleure parce que je me suis fait avoir.
Avoir par le déroulement
vie.
De l'histoire
Par la rencontre entre l'histoire que je narre et mon histoire personnelle.
Il y a eu un point de conjonction.
Oui, oui. Ben, c'est la perte de ceux que l'on aime.
Et Ce qui est intéressant dans ce roman aussi, Richard Morgieff, c'est que vous nous faites suivre plusieurs pistes, un peu à l'image du titre d'ailleurs, le Cherokee, oui, oui. Comme les Indiens qui suivent des indices. Alors il y a au moins deux histoires, ça commence par un avion de chasse abandonné dans la forêt, retrouvé sans pilote, mais avec sans doute à son bord une cargaison très précieuse qui, elle aussi, a disparu. Et puis, donc, l'autre piste, c'est celle du tueur en série, surnommé le Dindon, parce qu'il glousse, et qui lui aussi a un tableau de chasse épouvantable de très nombreux morts, des femmes, des enfants, et également, donc, les propres parents adoptifs de Nick Corey, 21 ans plus tôt. Quel était votre projet en commençant l'écriture avec ces deux articulations?
Alors, merci de cette question, parce que ça m'a pris la tête très très longtemps. En fait, voyez-vous, moi je suis un homme d'image. L'image, pour moi, précède l'écrit. Je vois une image, je la sens, et je l'écris. Donc un jour que je réfléchissais à écrire un livre, j'ai eu cette puissante image, pour moi, d'un avion de chasse américain, un sabre, l'équivalent d'un Rafale maintenant, qui atterrissait de nuit, et je le voyais atterrir, et je voyais qu'il n'y avait pas de pilote dedans. Je me suis dit, oh, mon Dieu, quelle chouette histoire. Donc j'ai commencé à l'écrire, j'ai fait 100 pages, et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc je l'ai laissé tomber. Et il y a de ça deux ans et demi, je me suis remis à écrire, et j'ai vu ce que je n'avais pas vu. Il y avait une voiture, il y avait l'avion, mais il y avait une voiture. L'avion, passait au-dessus de la voiture. Et le fil puissant de la narration, c'était plus la voiture que le livre. Mais avec les deux fils, l'avion sans pilote et la voiture abandonnée sans conducteur, ça faisait mon histoire.
Et effectivement, donc l'avion nous emmène sur cette histoire de militaires, de bombes atomiques, de sectes religieuses. Et la voiture, en revanche, nous fait suivre la piste du tueur en série parce qu'il y avait une femme dans cette voiture qui a disparu. Et Nick Corey va assez vite comprendre que cette disparition est liée ou ressemble au mode opératoire de ce tueur en série qui donc l'a privé de ses parents 21 ans plus tôt. Alors, que représente Nick Corey pour vous? Parce que c'est un personnage extrêmement complexe, à la fois un homme bon, mais qui, à un moment, va basculer quand même dans une forme de violence extrême.
Alors, Nick Corey, pour moi, comment vous dire, ça m'embêterait vraiment de mettre en scène un héros qui ne me fascine pas par sa complexité. Nick Corey est typiquement le genre de gars que j'aime. C'est un gars grand, sale gueule, mais beau, et qui prend quand même un peu les gens pour des cons. C'est que, en fait, il joue à être comme le Nick Corey de Jim Thompson. Hein. Il joue l'idiot. Il joue l'Américain du Sud avec un accent à la con, qui est un peu bête, qui dit monsieur, dame et tout. En fait, c'est un mec vachement cultivé, vraiment intelligent et très particulier. On pourrait dire que Nick Corey est lui aussi un criminel. C'est un criminel. Pourquoi? D'abord parce que les conditions de départ de sa vie sont effrayantes. À la mort de ses parents, il est accusé de leur meurtre, un meurtre abominable. Il est sauvé par miracle.
Après être passé quand même quelques mois en prison.
Voilà, dans des conditions épouvantables. Et en fait, c'est là où il me ressemble un peu, il se fait tout seul dans un univers de violence, car il est violent, comme moi.
Enfin, pas au même point quand même, rassurez-vous.
Pas au même point, je peux pas tout vous dire. Non.
Mais en tout cas, vous êtes capable de cette violence.
Je sais ce que c'est que la violence. Ouais. Alors là, vraiment, je sais ce que c'est que la violence. Et aussi, si je mets mes livres toujours dans des situations de violence ou de rupture, voyez-vous, parce que c'est justement là où ça devient intéressant. Quand l'histoire peut glisser, quand vous prenez quelqu'un, mettons, une femme ou homme, en 1944 en France, c'est intéressant. Parce que on peut tout faire. Hein. On peut être un bon fasciste, on peut être un collabo, on peut être un héros, on peut faire les deux. Voilà, c'est intéressant pour un écrivain. Donc Nick Corey, pour un écrivain, c'est merveilleux. C'est un salaud, il faut pas s'en faire un ennemi. Il est très bon, il peut être très amoureux, il faut pas lui marcher sur les pieds. Et il peut faire les pires des saloperies. Il peut se tromper très gravement, il peut faire quelque chose de vraiment pas bien, c'est ce qu'il va faire dans ce livre, et ça va lui mettre un bon coup dans les dents de s'apercevoir qu'il a, comment dire, moi c'est ce qui m'obsède dans ma vie personnelle, c'est ne pas faillir. Or, il se trouve que moi, Richard Morgieff, bien souvent je faillis. C'est pas très bien, mais c'est là-dessus qu'on écrit des histoires.
Et en tout cas, ça vous permet aussi, j'ai envie de dire une fois de plus, Richard Morgiev, de poser la question de qu'est-ce qu'un homme ? Parce que l'enjeu avec Nick, c'est de voir à la fois combien c'est un homme viril, un homme bon, mais qui aussi donc peut faire preuve de brutalité et qui a aussi un mal fou à admettre son homosexualité.
Bah, oui.
Ce qui ne l'empêche pas d'être un homme.
Ah, mais carrément, c'est ce que je voulais écrire aussi. Mais voyez-vous, en fait, au départ, toujours dans ma naïveté, pour moi, parce que j'étais pas allé plus loin que le bout de mon grand nez, Nicorette est hétérosexuel, voilà, je me posais pas de questions, hein, bon. Et j'ai écrit mon livre, et puis, suite à la remarque d'une de mes lectrices, parce que je lis avec des gens qui me relisent, ça m'aide beaucoup à avoir du recul, je me suis aperçu qu'en fait, je me trompais. Que Nicorette ne pouvait pas être gentiment hétérosexuel, voilà, bah non, il fallait que je cherche. Il fallait que je cherche et que je sois juste. Et en fait, Nicorette découvre son homosexualité. Ce n'est jamais facile, même à l'époque moderne. C'est toujours perturbant. Mais en 1954, quand on est flic et quand on est Nicorette, c'est beaucoup plus perturbant. Et ça m'a bien sûr intéressé. Parce que c'était juste. Et qu'en même temps, c'est bien d'avoir, comme je vous le disais, d'avoir des héros qui sont compliqués, complexes, qui ne savent pas, qui sont dépassés par eux-mêmes. C'est ça qui est beau, je trouve, dans la littérature, comme dans la rencontre avec l'autre.
Et c'est ce qui le met dans la marge.
Exactement. Mais alors ça, pour moi, depuis que j'écris, tous mes héros sont dans la marge, parce que je crois que tout simplement, je suis dans la marge. Par exemple, vieux bonhomme comme je suis, avec un statut d'écrivain, je peux facilement être pris pour un bourgeois parisien. Ouais, c'est comique, si vous voulez, par rapport à ma vie. Mais c'est cette complexité que j'aime narrer.
Avec toujours le sens du détail très important chez vous.
Ah, j'adore, oui.
Richard Morgiev, par exemple, votre tueur en série, lui, il a une obsession pour les parfums.
Oui.
Et là, on découvre à quel point vous avez la science des parfums très connus, parce que lui, il ne s'attaque que, ou principalement, on va dire, aux femmes qu'il croise et qui porte donc une fragrance très marquée. Est-ce que c'est une particularité à laquelle vous êtes sensible aussi ?
Oui, d'abord, quand j'ai plus un sou, ce qui m'est arrivé très fréquemment dans la vie, je mets un petit peu d'argent de côté pour m'acheter du parfum. Pas de la viande ni du riz. Parce qu'en fait, c'est une sorte de protection, voyez-vous, pour moi. C'est une sorte de halo derrière lequel je me cache. Si j'ai utilisé le parfum dans ce livre, comme ça m'est arrivé dans un autre livre qui s'appelle Boy, c'est sur les phénomènes sensoriels. Je travaille beaucoup mes livres dans la sensorialité. Parce que je veux que ça soit incarné. Je veux que quand on touche un animal, on touche l'animal, qu'on voit l'oiseau, on sent le parfum, c'est super important. C'est pas moi qui l'ai. Je crois que Proust est passé bien longtemps avant moi pour le dire mieux que moi. Donc, c'est capital de mettre tous les sens dans un livre. Tout ce que l'on peut ressentir. Parce que si vous voulez, on pourrait dire qu'on peut écrire le livre de deux grosses façons différentes. Soit du point de vue d'un narrateur, en disant il fait ça, pourquoi pas. Soit on le fait de l'intérieur. Moi, mes livres, je les écris de l'intérieur des personnages. Donc, il me faut des sens. Et si elle a le sens, par exemple, vous êtes une femme, vous n'avez pas vécu ça, mais quand j'étais petit, j'allais chez le coiffeur, et chez tous les coiffeurs, il y avait un flacon de parfum qui s'appelait cuir de Russie. Ben, je crois que si j'écris, c'est aussi à cause du cuir de Russie. Je me disais, mais c'est quoi le cuir de Russie? Et dans les livres que j'écris, par exemple dans le Cherokee, à tous les arrière-plans, il y a des détails. De façon à ce que le lecteur puisse lire eux vite, ou s'il s'arrête, il ne soit pas en panne. Il peut voir qu'il y a ci, qu'il y a ça, qu'il y a ça et qu'il y a ci.
Un roman sensoriel, donc, avec une grande place accordée à l'odorat, au toucher, à la vue, à l'ouïe. Et Nicorette, qu'est-ce qu'il écoute ? Qu'est-ce qu'il écouterait comme musique ?
En vérité, je ne sais pas ce qu'écoute Nicorette, mais ce qui est sûr, c'est que dans ce livre, il n'a pas assez écouté son cœur. Et il est puni.
no hard time. Can't you see hard times are here to stay? You know a hard time, hard time. Seem like they here to stay. Hard times, hard times.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui l'écrivain français Richard Morgiev, romancier, dramaturge, scénariste et acteur à l'occasion.
À l'occasion, oui.
Et qui là vient de publier son 29e roman sous le titre Le Cherokee aux éditions Joël Losfeld. Un récit qui, comme toujours chez vous, est écrit dans une langue, un style tout à fait personnel, à l'image sans doute de votre conception de la littérature. Et si vous voulez bien, Richard Morgiev, je vais lire par exemple ce passage, page 133. Je vous cite et je vous lis. Les écrivains n'étaient rien que des gars mal dans leur peau, avec des boutons et des petites bites. Ils essayaient de sortir de leur misère en racontant des histoires. Les histoires servaient à croire. Tout le monde voulait croire. La Bible, ce n'était qu'un ramassis d'histoires invraisemblables. Pourtant, on y croyait ou avait besoin d'y croire. On avait besoin tout le temps d'histoires, tout le temps. Tout était une histoire, tout, si on le voulait. Le sabre maculé de suie qui surgissait sans pilote, l'Hudson abandonné avec son parfum, c'était des histoires. Corée avait besoin d'histoires, de se raconter en les vivant, de poursuivre une histoire mal entamée, la sienne, d'essayer de trouver une fin. Il fallait raconter des histoires et éviter de s'en raconter. Il fallait raconter des histoires aux gens, les écrivains l'avaient bien compris. Leur raconter des histoires pour les inquiéter, les distraire, détourner leur attention ou les prévenir qu'ils allaient se coincer les doigts dans la porte.
Bah, merci Catherine, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, c'est pour les histoires. Voyez-vous, ce que je voulais dire aussi en écrivant ce livre, raconte une histoire, oui c'est sûr, un thriller qui soit intéressant, chouette et tout, c'était ma mission. Mais j'ai vite compris qu'il y avait une autre mission, c'était de faire passer ce sentiment très important que bien avant l'art, bien avant tout quasiment, en même temps que le feu, des origines, il y avait des histoires. L'homme, au sens générique, l'homme et la femme, tiennent le coup parce qu'ils se racontent des histoires. Et ce passage que vous avez lu m'émeut parce que vous savez, au départ, j'ai énormément prié à un niveau comique. Je priais des heures quand j'étais petit, hein, petit garçon, à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. J'ai prié tous les jours au moins une heure, en fait, principalement pour sauver mes parents. Et ça n'a pas marché. Alors j'écris des histoires. C'est une prière. Écrire, c'est une prière. Raconter des histoires, c'est se permettre de vivre.
Et en même temps, un peu plus loin, vous écrivez « Les gens bien mis rabâchaient souvent que Shakespeare avait tout dit. Des conneries, il n'avait rien dit. Personne ne pouvait rien dire. C'était bien pourquoi les écrivains continuaient d'écrire pour ne rien dire. »
Bien sûr. Bien sûr. Si je continue d'écrire, c'est que je n'ai rien dit. Donc je continue. Et je continue. C'est comment vous dire, l'imperfection, si tant est qu'elle existe, elle se fait par l'usage. Personne n'arrive à la perfection comme ça. Et dire, j'écris tous les jours, mais c'est vrai, j'écris tous les jours comme un fou, 7 jours sur 7, voilà. Mais si je continue, c'est que j'y suis pas arrivé. C'est que c'est pas dit, on peut pas le dire, on peut pas.
Donc ce n'est pas un constat d'échec.
Pas du tout. C'est un constat. Il faut continuer. Moi, je pense que l'écrivain, c'est le chasseur-cueilleur de l'origine. Il avance, erre sur la terre, d'étape en étape, ramassant tel jour un escargot, tel jour ceci, cela, jusqu'au bout de sa vie, où il va mourir. Et on racontera, son histoire sera incorporée dans l'histoire générale des autres, etc.
Alors cette image du chasseur-cueilleur, elle est intéressante parce que elle dit aussi l'amour que vous avez pour la nature, qui est très très présente ici, pour les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. C'est un environnement auquel enfin qui est important pour vous, Richard Morgiev.
Alors, d'abord, je pense que tout le monde a cette image de l'eau qui coule, le bruit du vent, le parfum qui va avec. Surtout nos citadins, ça nous fait du bien. Mais j'ai voulu, dans ce livre, me dire, c'est cuit les enfants. Vous comprenez, là, en ce moment, on est en train de jouer à se faire peur, d'arrêter de déconner. Mais c'est trop tard. La vérité, c'est que c'est trop tard. C'est foutu. Voilà, point. On écrira l'humanité, l'histoire de l'humanité. Je vais mourir, je ne sais pas comment aller l'écrire. Mais c'est fini. Donc, on a tout démoli. Et j'ai situé ce livre en 54, où la nature était encore très présente aux États-Unis, et bien sûr en Europe, moindrement. Mais pour bien montrer que, voilà, ça existait, et que c'était déjà en péril, et déjà on le foutait en l'air à fond. Et qu'en fait, il n'y a rien à faire. C'est comme l'amour. Vous aimez quelqu'un, et il va mourir. De toute façon.
Ou on meurt avant.
Ou on mourra avant. Mais c'est cuit. Et c'est ça la beauté de la vie. Moi, dans le drame écologique qui se passe aujourd'hui, qui est vraiment un drame, c'est beau. Voilà ce qu'on a fait, les gars. Alors, bon, un tel dit, il faut faire ceci, cela. Oui, c'est bien, on s'adapte, on essaie de faire des choses. Mais c'est nous qui avons fait ça. C'est la tragédie. Voilà.
Pour revenir à l'écriture, Richard Morgiev, quand je disais que vous aviez un style qui était tout à fait singulier, c'est parce que vous avez une façon d'écrire des phrases comme personne, de déconstruire la narration. Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait naturel ou c'est vraiment une écriture sur laquelle vous travaillez beaucoup? Et j'ai envie de vous dire, d'ailleurs, quand vous écrivez, qu'est-ce qui prédomine?
Alors, merci beaucoup. Donc, il y a l'image. Et puis après, il y a le son. Comment c'est dit? Voyez-vous, quand je parle, où est-ce que je vais charger? Et quand je dis charger, on se comprend bien. Il y a déjà tout le relief. C'est en 3D. Hein. C'est le rythme, la beauté. Moi, je cherche la beauté. Je cherche la beauté, je cherche la beauté, je cherche la beauté. Et je cherche le rire aussi. J'adore l'idée qu'on puisse se marrer en lisant ce livre, par exemple le Cherokee ou d'autres. Parce que pour moi, c'est la vie, c'est beauté et rire. Maintenant que j'écris, c'est extrêmement, c'est beaucoup de boulot. Il faut que ça soit juste, c'est le truc numéro un. Donc le moindre mot qui est mal fagoté, le mauvais mot, ça fout en l'air un livre, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je sais rétrospectivement, par exemple un jour j'ai voulu faire mon malin, utiliser un mot pour faire une description, voyez-vous, et puis un mot un peu, oh comment, pourquoi c'est marrant qu'il ait utilisé ce mot, qu'est-ce qu'il est fort, eh ben non, j'étais con. Il faut que ça soit tout juste.
Donc votre champ de travail, c'est la phrase d'abord?
Oui, je vois l'image. Et je fais la phrase, après j'incorpore le son, le rythme, le glissé, la peau, et après, il faut par exemple rentrer dans le livre. Comment on va rentrer dans le livre? C'est fou! C'est carrément génial comment on peut rentrer dans le livre. Pour le Cherokee, je suis assez content, parce qu'on rentre dans le livre avec, on sent déjà la voix du narrateur, voilà, de Nick Corey. Il est là. Pourtant c'est une description, mais voilà. C'est du boulot.
Et ce plaisir de l'écriture, Richard Morgiev, qu'on sent bien vissé à votre corps, vous l'avez aussi quand vous écrivez pour le théâtre, puisque vous êtes l'auteur de 3 pièces?
Alors, en fait, en vérité, on peut dire que pour moi, le roman, c'est du théâtre. Hein, parce qu'en fait,
Il y a beaucoup de dialogue, en effet.
Voilà, il y a du dialogue. Et puis, il y a aussi, toujours pareil, le incorporé. Moi, je suis machin, je suis machine, je suis le caillou, je suis le tigre. Je tourne toute la journée de personnage en personnage pour que ça soit juste. Donc, c'est une sorte de théâtre, en fait, en vérité, le roman. Après, dans une autre structure, avec d'autres buts. Mais moi, je suis pour l'écriture mi-voix. Hein. Quand j'écris, c'est porté. Ce sont des mots, bien sûr, certes, mais ce sont des mots dits. Et j'écris pour que ça soit, je reviens dessus, beau. C'est-à-dire que si on écrit juste, sans se le dire, sans perception sensorielle, ça peut être très beau, mais il faut être un génie, je ne le suis pas. Donc moi, ce que je veux, c'est que ça soit... qu'on se dise, il y a à manger. Il y a à manger et à boire, ça serait un titre de livre que j'aimerais bien écrire.
Ah bon?
Ah oui.
Vous êtes également peintre, Richard Morgiev.
Oui, mais bon, alors, disons, faisons un distinguo. Toute personne qui peint n'est pas peintre. Voilà.
Vous exposez, vous êtes peintre.
Oui, mais... Alors, écoutez, moi, ça m'a fait un bien fou de peindre par rapport à un truc très simple qui est juste personnel. Je pense que, mais je peux pas le démontrer, je pense que la peinture est de l'ordre de la maman. Comment s'exprime ce qu'on dit à sa mère, et l'écriture, c'est plus déjà cérébral, etc. Je me souviens que quand maman est morte, dans la période où elle allait mourir...
Et vous étiez très jeune en plus.
J'étais jeune.
Vous aviez 6 ans, n'est-ce pas?
Voilà. C'était la mode des robes sacs, voyez-vous. Et je lui dessinais et je peignais des petites femmes en robes sacs. Eh bien, j'ai peint pour ça, pour revenir. Et puis, il y a quelque chose de vachement important dans la peinture. Le malheureux écrivain, en général tous alcooliques, comme moi, le soir, quand il finit sa journée de travail, il a les mains propres. Il a pu tuer des gens, plonger les mains dans... Il est propre. Il n'a même pas forcément sué. Bon, tout le monde n'est pas si menant. Le peintre, lui, il a de la peinture. Et il a terminé sa journée, il a même sur son pantalon, ça se trouve, sur ses mains, il a une preuve de son travail. Et en plus, il peut le voir. Tandis qu'un livre, même si c'est un objet, lorsque j'écris mon livre, il n'est pas encore un objet. Il n'est pas l'objet livre. Il est un tapuscrit. Il est rien du tout. Rien. Et une fois que le livre objet existe, mais il n'existe pas. Très souvent, j'ai vu des gens qui me disaient « Ah, votre personnage, quand même, elle a une guêpière et tout. » Mais non etc. Donc le lecteur se figure des choses, hein, ce qui est tout à fait normal et admissible. Donc en fait, l'écrivain écrit quelque chose qui n'existe pas, tandis que le peintre, ça existe.
Et juste pour finir, du coup, au début de cet entretien, Richard Morgiev, vous disiez que vous aviez écrit des polars pour votre père. Là, vous dites que la peinture, c'est un lien avec la mère. Il me semble que dans de nombreux titres de votre œuvre, il y a les mots « femme »,« homme », »,« enfant ». Vous essayez de reconstituer une famille aussi ?
Ben, écoutez, bien sûr, à partir du jour où j'ai écrit un livre qui s'appelle « Un petit homme de dos », qui narrait mon histoire de famille, je me suis dit, mais ouais, je ne suis plus orphelin. Ma famille, si je veux la rencontrer, j'ouvre le livre. C'est bien sûr que c'est, entre guillemets, une fiction, mais pas tant que ça, malheureusement. Et je l'ai. Écrivain, c'est tous les jours, en fait, je suis de nouveau dans l'essence, parce que la mort, il n'y a pas de sens. Par exemple, quand maman est morte, on m'a retrouvé, j'étais dans ses bras. Comment voulez-vous que je m'en remette de cette histoire-là? C'est pas possible. Donc j'écris. Si j'avais pas écrit, j'aurais pété les plombs, je serais devenu complètement fou, je pense. Hein. Donc, si c'est aussi important dans ma vie, si je le fais aussi régulièrement, c'est que c'est vital. Et si ce qui est vital, c'est bon, c'est la vie.
Et c'est ce que dit Nick Corey aussi. On lit pour savoir la fin de l'histoire.
Voilà.
Et donc, on écrit aussi pour connaître l'histoire.
Voilà, absolument. C'est la seule façon. Hein. Et puis, tout ce qu'on ne connaît pas et qui fait que, quand j'écris, c'est pour aller... Je ne sais pas où, en fait. C'est beau, hein, d'écrire. C'est vachement beau.
Merci beaucoup.
C'est moi.
Richard Morgiev. Je rappelle le titre, donc, de ce nouveau roman, Le Cherokee, qui est apparu aux éditions Joël Losfeld.
Merci bien.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.